Nous sommes le jeudi 10 avril. Il est 21h et un petit peu et quelques minutes sur Radio Canu. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va plutôt pas mal.
Je t'ai trouvé particulièrement enthousiaste et brutal par rapport à ce pauvre générique de Fallout 3.
Oui, non, bah écoute, c'est Fallout 3, c'est des réactions un petit peu épidermiques.
Je comprends. Alors, ça fait quelques émissions que ça devrait être épidermique. Là, t'es arrivé au point de non-retour. Très bien.
C'est ça. Au bout de 2 ans.
Voilà.
J'en ai marre.
C'est quoi? C'est le fait d'avoir vu le triple I avec moi qui t'a.
Aussi, c'est vrai que ça fait maintenant beaucoup trop longtemps dans cette même journée qu'on passe ensemble.
C'est ça.
D'habitude, on limite ça à quelques heures par jour.
Écoute, le Triple I, qui était le showcase des gros indépendants, globalement, qui est passé ce soir, donc ce 10 avril, à 18h, on était sur Discord à réagir dessus. Peut-être qu'on en parlera bientôt, mais c'est pas le sujet de l'émission, vu que on a préparé deux grosses news pour aujourd'hui. On va parler de la Commission européenne qui tente de légiférer sur les microtransactions. Mais dans un premier temps, Romain, tu vas nous parler de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec la Commission des affaires économiques, qui s'intéresse aux raisons de la crise dans le jeu vidéo français.
Tout à fait, et c'était douloureux. Je ne te le cache pas. Je me suis effectivement fadé les 2 heures qu'ont duré cette audition devant donc une assemblée conjointe de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et des affaires économiques également de l'Assemblée nationale.
Alors le nerf de la game, au nom du nerf de la game,
oui,
nous saluons ton sacrifice.
J'ai souffert pour vous. Et j'espère que ce ne sera pas trop douloureux d'entendre ce que j'en ai retiré. Donc oui, c'était le 12 mars, au matin, donc l'Assemblée nationale, donc la commission conjointe des affaires culturelles et économiques, commission des affaires culturelles, donc présidée par la députée Fatia Kelouahashi, et la commission des affaires économiques, présidée par la députée Aurélie Trouvé, respectivement PS et LFI, qui donc ont auditionné les représentants du SNJV et du SEL, SNJV, syndicat national du jeu vidéo, SEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et il y avait également, donc ce sont effectivement, comme précisé, les lobbies patronaux du secteur du jeu vidéo, et il y avait également le CNC, organisme public en charge, entre autres, de l'attribution des subventions publiques du jeu vidéo. L'existence, finalement, de cette commission, elle a été apportée à notre attention par le STJV, qui donc, le 1er avril, a diffusé donc son compte-rendu à eux de cette commission. C'est sans appel. Enfin, pour le STJV, effectivement, c'était assez violent comme commentaire sur effectivement ce qui s'est produit et ce qui a été ce qu'on a vu. Moi, pour vous le décrire un petit peu globalement, on avait donc le SNJV qui est venu un petit peu présenter, qui a fait un préambule pour dire voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'est le jeu vidéo en France. Le SEL qui est venu faire exactement la même chose.
Alors, pour rappel, le SEL et le SNJV, c'est deux faces de la même pièce.
Hein. Voilà, c'est une bonne façon de le dire.
Voilà, disons que d'un côté, le seul truc que va rajouter le SNJV par rapport au SEL, c'est que le SEL ne va concerner que les éditeurs et les distributeurs. Le SNJV va aussi rassembler les patrons de gros studios.
Et donc, voilà, les présidents des deux commissions ont introduit la séance en soulignant l'importance du secteur économiquement, en termes d'emploi, en termes de plein de choses, les turbulences qu'ils traversent actuellement, Et c'était d'ailleurs une des raisons, finalement, de la présence de ces personnes devant la commission de l'Assemblée, parce que c'est quand même un milieu qui, effectivement, rapporte énormément d'argent, enfin, en tout cas, qui brasse énormément d'argent, bien plus que le cinéma, bien plus que la musique, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et qui, l'année 2023, avait atteint des records avec plus de 6 milliards de chiffre d'affaires. L'année 2024 était un petit peu moins bonne, mais elle restait la deuxième dans le record, donc elle était un tout petit peu moins élevée que 6 milliards, mais on n'avait jamais connu d'autres meilleures années qu'à part 2023.
Et pourtant, avant 2024, on n'avait jamais viré autant de monde dans l'industrie du jeu vidéo. La dernière fois qu'on avait viré du monde comme ça, c'était lors du crash dans les années 80, mais on en a viré moins, tout simplement parce qu'il y avait moins de gens qui bossaient dans le jeu vidéo à l'époque.
C'est ça. Et dans le cadre du jeu vidéo français, parce que c'était effectivement le sujet, très précisément, ça a été un petit peu moins agressif, un peu moins violent que ça a pu le faire dans le milieu, par exemple, américain, ou dans certains studios asiatiques également. Enfin bref, parce qu'il y a des mises en place de règles, tu licencies pas aussi facilement en France qu'aux États-Unis. Donc il y a un petit peu de résilience, il y a un petit peu d'inertie dans les mouvements. Il y a d'abord des plans sociaux qui sont mis en place. On pense à Dontnod, par exemple.
Moi, avant même Dontnod, je pensais notamment à Blizzard Versailles.
Oh, oui, c'est un bon exemple.
Blizzard Versailles, parce que Dontnod, entre guillemets, c'est encore en cours. Blizzard Versailles, c'est fermé.
Oui, ça s'est fait, ça a été fait. Alors qu'effectivement, Dontnod, c'est encore... Enfin, il y a eu une négociation, il y a eu... Pour améliorer les conditions de départ. C'est ça qui a été trouvé comme accord. Mais on peut évidemment parler, parce que c'est une information qui vient d'arriver, qui demande encore à être validée, confirmée, précisée, presque officiellement. Je crois qu'officiellement, le message n'est pas encore passé.
Non, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Il y a eu des articles qui parlent donc de la fermeture de Microids Paris.
Tout à fait, de la licenciement des 35 personnes qui y travaillent.
Quand on en reparlera, je pense qu'on refera un laïus sur l'histoire de Microids. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a 2 ans. Cette émission commence à être vieille, hein. Mais il me semble qu'il y a 2 ans, hein, j'avais fait tout un laïus sur Microids, sur toute l'histoire de Microids, comment ils étaient arrivés à se spécialiser au bout d'un moment dans l'adaptation de licence BD, etc. Ouais. Et effectivement, j'en avais pas mal parlé, et là, je pense que c'est la suite et probablement la fin.
Pas bien parti, en tout cas. Bref. Donc voilà, ce préambule pour présenter l'industrie, qui est une industrie qu'ils appellent jeune, parce qu'elle a moins de 50 ans, globalement, même si la France a été parmi les premiers, hein, clairement, à créer du jeu vidéo.
Non, mais c'est jeune, comme le PSG.
Ah putain, ça là, je m'y attendais pas. écoute, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Du coup, voilà, ils ont précisé la diversité du paysage des studios en France, c'est-à-dire que on a de la multinationale cotée en bourse, on a de la micro-entreprise, on a de la diversité géographique, parce qu'on a 55% des entreprises qui sont situées hors Île-de-France. Donc voilà, c'est déjà quand même pas rien. Et on a que, entre guillemets, 27% de ces entreprises qui sont estimées à 1000 à peu près, hein, 1000 entreprises à peu près dans le secteur, dont 580 qui sont dans le développement.
Est-ce qu'il a été évoqué, justement, l'arrêt des subventions régionales, notamment dans le Grand Ouest, qui a provoqué l'arrêt d'un sacré paquet d'initiatives, notamment régionales, en Bretagne et dans les... Alors, je ne sais pas comment s'appelle la région maintenant, parce que dans ma tête, j'ai Pays de la Loire, parce que je suis vieux, mais...
Ça ne doit pas avoir beaucoup changé.
Oui, voilà. En tout cas, voilà, Centre-Loire. Je crois que c'est Centre-Loire ou un truc comme ça. Mm-hmm. Bref.
Mais effectivement, il y avait eu effectivement ces modifications. Il y avait eu des mises en place, certains mécanismes qui n'existent plus aujourd'hui.
Exactement.
Et effectivement, non, ça n'a pas été évoqué. Parce qu'ils avaient d'autres sujets, je dirais, d'évoquer au niveau des aides. Spécifiquement. Et je disais donc 27% de ces entreprises qui gagnent plus d'un million, enfin qui font un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros par an. On parle quand même d'un ensemble qui rapporte à peu près 6 milliards. Encore une fois, c'était les chiffres 2023. 2024, on n'est pas loin de ça. 2025, on verra bien.
Mais donc on vient en micro... Attends, non, ça c'est pour après.
et ce ne sera pas aussi précisé. En tout cas, ce n'était pas un sujet suffisamment précisé. Ils ont précisé un truc intéressant, c'est qu'effectivement, ils considèrent que le marché n'est pas concurrentiel au niveau interne. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les studios ne sont pas en concurrence les uns avec les autres au niveau français, mais qui sont en concurrence avec l'international. C'était, j'allais dire, intéressant, même si je n'ai pas forcément compris.
L'un dans l'autre, en fait, je comprends un peu le statement, mm-hmm. dans le sens où, si tu... Alors, prenons le marché PC ou le marché mobile. Actuellement, savoir qu'il y a un copain à côté français qui marche, c'est presque mieux pour toi mmh. que ça soit quelqu'un d'étranger. Parce qu'il y a le côté, ah ben, si ça vient de tel pays, c'est que c'est vachement bien.
Il y a ce
que
tu vois, cette reconnaissance côté, de
par exemple, ce qui se passe pour le jeu PC, notamment en Pologne.
Mmh, bien sûr. Enfin, mais tu as vraiment cette histoire, effectivement, de la reconnaissance du savoir-faire, de la qualité des formations aussi. Ils s'enorgueillissent, effectivement, d'avoir 76% de l'industrie qui est en CDI, des travailleurs. On pourra en parler, évidemment. Mais évidemment, ils se plaignent que...
Dans le quand ils ont fait leur calcul, néanmoins, parce que vu l'emploi...
C'est le SNJV qui l'a déclaré.
D'accord. Et ils mettent, du coup, les faux stages, ils mettent...
Alors,
ils mettent
on en parlera.
Ils mettent les prestations, ils mettent les vacataires,
L'enchaînement pardon, des CDD.
Bref. Ouais, voilà. Ils mettent pas tous... Ok, très bien. 76, ça me paraît beaucoup.
On parle effectivement de concurrence internationale sur les talents. C'est-à-dire que tu as également des studios étrangers qui viennent effectivement chercher des compétences également... en France, et notamment la concurrence du Canada, avec ses crédits d'impôt, etc., et ses aides et ses incitations pendant longtemps, pour créer des studios et...
Tu me rappelles où est situé...
Alors, je vais pas effectivement reprendre par détail absolument tout, parce que sinon j'en ai pour 2 heures.
Ah ouais, non, parce que... Clairement. Non, mais juste...
Je te parle de ce qu'ils ont dit.
Non, parce que...
de comment est-ce qu'ils se présentent.
La concurrence du Canada, c'est vrai que des studios comme Dontnod, comme Ubisoft, n'ont pas du tout leur propre partie au Canada.
Exactement.
Et c'est pas du tout même la partie mais sur laquelle ils comptent.
Ce que dit le SNJV, c'est la concurrence au niveau des mécanismes de financement locaux et d'accompagnement de crédit de fonds publics. Mmh. Elle est là, la concurrence. Et donc, évidemment, de leur compétitivité à ce niveau-là. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, effectivement, ils sont partis un peu là-dessus. Le président du CNC, lui, c'était intéressant. C'était plus intéressant, effectivement, Vincent Villette. Plus intéressant sa présence que celle, effectivement, d'Anne Desvoisou et de James Rebourg, évidemment, qui sont les deux, comme tu disais, les deux faces d'une même pièce. Le CNC était plus là pour parler de son rôle, finalement, de principal accompagnateur financier de ça, avec le crédit d'impôt, enfin, pas directement le crédit d'impôt pour eux, mais eux, ils ont un fonds de financement de la création audiovisuelle, du coup.
Ce qui les oblige au moins à avoir un œil sur les candidats, avec justement toutes les candidatures au fonds en question, ça les oblige à avoir un œil sur l'industrie. Sur justement sur sa diversité, ouais. Et ce qui est proposé par les différents
et d'avoir des critères.
Oui, et d'avoir
des critères de conservation des propriétés intellectuelles au sein des studios, enfin
de connaître dans quel état aussi sont les demandants aussi.
Oui. Oui, bien sûr, leur état de finance, enfin comment est-ce qu'ils se financent, etc., quel est leur projet à ce niveau-là. Effectivement, et donc a été évoqué donc ces différents mécanismes. Et comme on disait, donc on parlait du CNC, point très important et relevé de façon extrêmement pertinente aussi par le STJV, et plusieurs fois d'ailleurs par le président du CNC, c'est que si le jeu vidéo récupère effectivement des financements via le CNC, il ne participe absolument pas au financement du CNC par le système de redistribution qui existe dans le cinéma et l'audiovisuel en général.
On sait à quelle hauteur le CNC finance le jeu vidéo ? Ça a été précisé ou pas ?
Oui, ça a été plus ou moins dit plusieurs fois, mais indirectement.
Juste pour savoir si c'est en milliers, en millions ou en milliards.
C'est en millions, on parle de 6 millions. C'est 6 millions d'euros à peu près, quelque chose comme ça.
Ok, ça marche.
Il était où ? Il est là. Parce que oui, après, ils financent également, ils aident les écoles, par exemple, ils sont également à ce niveau-là. Il est là, je crois, le chiffre. Ouais, c'est ça, c'est à peu près entre 5 et 6 millions par an qui participent. Et à côté de ça, on a effectivement le crédit d'impôt, qui est l'autre moyen, l'autre levier public pour accompagner la création de jeux vidéo. Crédit d'impôt sur les coûts de production. Qui permet effectivement d'économiser jusqu'à 30% d'impôts et qui représente quasiment 50 millions d'euros par an à l'État en tant que réduction d'impôts pour l'industrie en général. Pour les à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont mentionnés plusieurs fois dans la discussion. Ce qui est intéressant finalement dans le truc, alors oui, effectivement, moi c'est la première fois que je regardais ce genre de dialogue, j'ai envie de dire, entre des députés et des acteurs d'une industrie quelle qu'elle soit. On constate plusieurs choses, c'est qu'il y a effectivement des questions qui sont hors sol, deux, trois personnes qui savent à peu près de quoi elles parlent, et également relevées par le STJV, dès le départ dans son compte-rendu de cette discussion, une volonté manifeste des deux personnes en question, d'Anne Desvoisou et de James Rebourg, de ne pas répondre. Globalement. Hein, ils ont absolument noyé le truc. Il y a énormément de trucs où j'ai noté au fur et à mesure que j'écoutais les discussions. Il n'a absolument pas répondu à la question. A répondu à côté. J'ai passé mon temps à faire ça dans l'écoute du truc. Et finalement, personne qui vient appuyer, si tu veux. Personne qui vient dire, mais attendez, vous n'avez pas répondu. C'est arrivé une seule fois. Fatia Keloua-Hachi qui a demandé quand même à un moment à Anne Desvoisou de préciser. C'était au moment où elle disait que il faisait des efforts pour l'inclusivité, pour la parité et pour améliorer les conditions de travail. Mais on y reviendra parce que, globalement, voilà, il y a eu pas mal de questions. Évidemment, hein, c'est là, on repère assez facilement finalement les bords politiques des personnes qui interviennent.
Oui, parce que les questions, en fait, elles sont, en fait, il y a un côté. Je suis pas là pour résoudre un problème, je suis là pour avancer mon agenda politique dans la commission. Okay.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit effectivement les interventions du RN, qui sont la première, c'est pour dire Ubisoft, ils sont quand même un peu dans la merde. Est-ce que c'est pas parce qu'ils poussent un peu trop l'idéologie woke? Voilà. Il a attaqué comme ça, c'est la première question des questions des députés.
J'ai mal à la
foutu,
tête.
Ça a foutu un bordel, t'as tout le monde qui gueulait dans le machin.
J'ai juste mal à la tête.
Une cour de récré, le machin, c'était...
Ça n'a aucun sens.
Bonne réponse, malgré tout, à ça, d'Anne Desvoisou. Il faut lui reconnaître ça. Elle a répondu que la création française, elle est riche, elle est diverse, elle est inclusive, et que c'est quelque chose qu'ils vont défendre et qu'ils veulent participer, en fait, et défendre cette diversité et l'inclusivité dans les sujets abordés, et également dans les studios, avec les réussites ou les échecs qu'on peut envisager, hein, mais notamment sur la parité, notamment sur les violences sexistes et sexuelles. Mais sa réponse contre quelqu'un qui te dit « dis donc, est-ce que c'est pas l'idéologie woke qui fait que le secteur du jeu vidéo il galère actuellement ?» C'était une bonne réponse.
C'est un discours, en tout cas, qui paraît intéressant, notamment lorsque tu vois que tout ce qui est milieu culturel a beaucoup apprécié ce qui s'est fait lors des JO de Paris, notamment lors de la cérémonie d'ouverture où l'un des personnages principaux était inspiré d'une des créations d'Ubisoft et qui était reconnu comme un truc français, quoi.
Complètement. Et ça a été une des questions qui est revenue beaucoup trop souvent. Tu sens aussi que il y a personne qui s'est concerté pour que plusieurs questions ne soient pas redondantes, en fait, entre les différentes personnes. On a eu beaucoup de questions sur la souveraineté des studios, sur le fait que des fonds étrangers viennent acheter des studios français. On pense à Quantic Dream, on pense à ce qui était plus ou moins en cours au moment où la question s'est posée, le rachat, en tout cas l'investissement massif de Tencent dans Ubisoft.
C'est vrai que c'était le 12 mars, c'était à peu près à ce moment-là.
C'était un petit peu avant, on ne savait pas encore.
Mais c'était, à l'époque on disait, est-ce qu'ils vont racheter
Est-ce que Ubisoft va se péter la gueule?
Comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est pas aussi simple que un rachat massif, c'est plutôt Tencent c'est complètement placé en mode on est les numéros 1, si jamais quelqu'un veut acheter, c'est forcément nous, mais le contrôle il est toujours du côté de la famille Guillemot
pour l'instant, en tout cas. Mais du coup, voilà, la question de la souveraineté des propriétés intellectuelles également, donc ça c'était effectivement des questions qui venaient globalement de la droite sur le, j'allais dire, la souveraineté, la défense de la culture française dans les sujets abordés. Ce qui est très étonnant finalement, parce que...
C'est marrant qu'il parle de ça, il devrait plutôt en parler au type du CNC plutôt que...
Oui, d'une certaine façon.
J'y vais, mais bon,
okay. Après, le gars du CNC a répondu que c'était malgré tout des différents éléments qui font partie des trucs qu'il contrôle, entre guillemets, de l'intérêt culturel finalement du projet. Alors, il a répondu comme ça, sans rentrer dans la logique de dire la culture française, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle doit pas transparaître dans nos jeux. Évidemment, les mecs ont cité Assassin's Creed Unity parce que ça se passe à Paris pendant la Révolution.
C'est marrant parce que moi, j'aurais nommé Chia en premier, tu vois.
Eh oui, mais c'est néo-calédonien.
C'est français.
Enfin,
c'est français.
Voyons, réfléchis.
C'est encore français.
La seule personne qui a évoqué, évidemment, les mobilisations, les revendications des syndicats, le STJV, tout simplement, et les différentes grèves qui étaient en cours, c'est LFI, sans surprise, qui a donc parlé de la précarité des employés, des indépendants qui sont... qui travaille avec un contrat par an, etc. On avait pas mal de choses.
Ça,
on parlait de crunch non rémunéré, etc.
Ah, mais ça,
ils avaient fait quelque chose d'assez complet.
J'imagine que Anne de Voissou était plutôt rodée aux réponses à ça, qui est de dont acte, alors, no comment,
absolument
ça
pas.
Me dit rien.
Absolument pas. Je l'ai trouvé à la rue, clairement. Elle a bafouillé pendant 5 minutes.
Moi, c'est ce que j'ai dit.
C'est ça.
Elle est rodée.
J'ai pas compris. Elle a bafouillé qu'elle comprend les inquiétudes légitime des salariés sur leurs emplois, et puis derrière enchaîne sur industrie récente, le fait que l'industrie soit jeune, elle a répété ça, sur le sujet du dialogue social, ce sont des sujets récents, que l'industrie est en train encore d'apprendre comment on fait du dialogue social, ça c'est une industrie en croissance jusqu'à maintenant. Alors évidemment, ils ont du mal à gérer parce que là aujourd'hui, ils sont plus complètement en croissance.
Bah, en fait, là où c'est intéressant, il y a un, je pense qu'il y a un fond de vérité dans, on va dire un aveu en fait, un aveu en fait qui est de, on a toujours été une industrie où globalement c'est le métier passion. Les gens ne savaient pas ce qu'était le droit du travail de manière générale.
On en avait rien à foutre,
les heures, les conditions, les machins, de toute façon t'étais là pour la passion, et que maintenant il y a des gens qui sont là tout simplement pour juste avoir un travail, tout ça, parce qu'ils sont bons là-dedans, point. Tout ce qui est dialogue social, etc., ils ne sont absolument pas à l'aise, et entre guillemets presque, et je pense que l'embarras il est du fait qu'ils sont toujours pas armé pour ça.
C'était compliqué. Franchement,
c'est pour ça que je dis qu'il y a un fond de, je pense qu'il y a un fond de vérité.
Je comprends ce que tu veux dire. Autre question qui était pas inintéressante. Donc évidemment, il y a également la question des violences sexuelles et sexistes dans les différentes enquêtes qu'il y a pu y avoir.
Mais il n'y a pas de ça dans la culture, arrête.
Notamment chez Ubisoft, par exemple, tu vois.
Le procès n'était pas encore renvoyé à cette époque-là.
Non, le procès n'était pas encore renvoyé. Bref, les questions qui ont été soulevées donc par la députée LFI à ce moment-là ont évidemment été perturbées par des gens qui ont fait du bruit dans la salle. Bref, qui l'ont perturbé sa prise de parole. Une cour de récré, hein, je te jure. T'abordes les sujets sociaux, d'un coup, il y a des gens qui se permettent de couper les gens.
C'est marrant,
la parole
ça, ça change vachement de l'Assemblée nationale.
Ah non, mais magnifique. Magnifique. Bref, ils ont demandé effectivement au CNC est-ce qu'ils ont fait des choses pour les violences sexistes et sexuelles dans le domaine du jeu vidéo, comme ils ont pu le faire dans le milieu du cinéma.
Que le CNC Qu'est-ce que le CNC a fait pour
les... C'est une bonne question. Je t'avoue, je me suis pas assez renseigné. Toujours est-il qu'ils ont répondu qu'ils n'ont pas laissé ça de côté. Ils ont financé et accompagné. En gros, ils ont conditionné les aides à des formations justement sur la façon de traiter les employés, les environnements de travail, éviter que ce soit des environnements toxiques, etc. Mais il y a une chose intéressante, c'est que c'est la première fois qu'a été évoquée donc la création d'un CNJV en parallèle au CNC. Comme je disais tout à l'heure, le CNC, il n'est pas du tout financé par le jeu vidéo. Un CNJV, Centre National du Jeu Vidéo, serait relativement logique, puisque les conditions sont difficilement comparables, en fait. Au niveau des conditions de production, au niveau des conditions de travail, tout simplement, avec le cinéma, ça aurait du sens de les séparer.
Et même, de toute façon, l'industrie en elle-même n'a pas besoin d'être adossée au cinéma pour vivre toute seule comme une grande. Hein, donc
déjà, mais c'est surtout que... alors, il y a un très bon article pour ça qui s'appelle « Why can't you be more like your older brother ?» Un article qui montre que ce sont deux processus de production qui n'ont pas grand-chose à voir en vrai.
Oui,
en termes de temps, en termes de... Tu filmes des trucs et tu fais le montage bien plus tard.
On se souvient de l'impasse dans laquelle ont été les jeux qui ont été de plus en plus...
Moi, je pense vraiment de façon...
cinématographique.
Comment les deux industries fonctionnent différemment. D'un côté, tu as des studios qui ont des salariés. De l'autre côté, tu as des pigistes qui vont faire... C'est rare que tu aies une boîte de prod avec un réalisateur et toute son équipe derrière qui réutilise à chaque tournage, où qu'il aille. Ça, quand tu vas tourner à l'étranger, tu prends les personnes locales.
Ça a existé dans les 70, effectivement.
Pendant que tu es dans la période de tournage, quand la période de tournage est finie, tu fais le montage. Pendant que tu fais le montage, les gens qui ont bossé sur le tournage, ils bossent sur d'autres trucs. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même temporalité. C'est pas du tout la même façon de gérer les ressources humaines. Tu payes pas les gens de la même façon au même moment. Tu les crédites pas de la même façon au niveau de la propriété intellectuelle de ce qu'ils ont fait, de leur personnage, etc. Dans le jeu vidéo, c'est encore autre chose, hein, mais et pareil pour la distribution, les modes de distribution n'ont strictement rien à voir. Donc, c'est pas illogique, et cet article le montre bien, je trouve très intelligent cet article justement sur ça, pour montrer les différences au niveau de la production.
C'est vrai que t'as quelque chose de beaucoup plus contrôlé dans le cinéma d'un point de vue distribution.
Et puis de contrôlé parce que beaucoup plus vieux, et puis aussi contrôlé parce qu'il y a eu des régulations qui ont été mises en place. Différentes selon les pays, mais en France, il y a une régulation qui a été mise en place. Mmh. Et ça a été un des vrais sujets, effectivement, de ça. Une régulation spécifique aux jeux vidéo. Évidemment, je te laisse imaginer la réponse d'Anne Desvoissoux. On n'en veut pas. Sa phrase a été très claire. Il ne faut pas contraindre les entreprises. Voilà. Et deuxième réponse, finalement, dans la discussion, le CNJV n'a pas besoin d'exister parce que il existe déjà, c'est le CNC. C'était la réponse d'Anne Desvoissoux.
Ça n'a pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens parce que, encore une fois, c'est deux financements différents, c'est deux fonctionnements différents, et tu ne peux pas prétendre être au même niveau si tu ne finances pas.
Et sachant que de toute façon, le truc, c'est que s'il y a un moyen qui est trouvé pour que les entreprises de jeux vidéo financent le CNC, ils vont eux-mêmes demander un CNJV. En disant, oui, nous, on est une industrie qui génère plus d'argent, donc on devrait avoir plus, etc. Pour avoir...
Aujourd'hui, en fait, ils veulent pas de régulation, donc ils veulent pas de changement. Mm-hmm. Ils veulent pas qu'on se pose la question et qu'on creuse.
Mais le CNC peut... Oui, mais si le CNC dit on arrête de financer le jeu vidéo parce que vous nous filez pas d'argent, ils vont faire quoi ?
C'est une vraie question, et en tout cas, le Vincent Villette, donc le président du CNC... Et lui, il est chaud pour discuter d'évolution à ce niveau-là. Lui, très clairement, beaucoup plus que le CEL et le SNJV.
Mais évidemment.
Et après, bon, il y a eu d'autres sujets qui ont été évoqués, effectivement. Ils sont assez peu nombreux à avoir rappelé qu'il y a des gens qui travaillent aussi dans l'industrie. C'est pas que des éditeurs et des gens qui et du pognon. Ça a été d'ailleurs la conclusion de Fatia Kelouachi, qui donc a rappelé que rendu hommage finalement aux travailleurs de cette industrie. STJV, qui dans sa déclaration a regretté que c'est bien gentil de leur rendre hommage, ça aurait été bien de les inviter.
Quelque chose me dit que c'est pas la présidente de la commission qui peut imposer qui se pointe.
C'est possible, effectivement. C'est possible que les personnes prévues pour venir discuter de ça. Maintenant, effectivement, encore une fois, je suis complètement d'accord avec le constat du STJV. Ils ont répondu à rien, en fait. Ils ont répondu à côté. À chaque fois qu'il y avait eu beaucoup de questions, une question sur l'e-sport, une question sur le financement de la création en Outre-mer, par exemple. Il y a un député de La Réunion qui est venu un peu évoquer la situation locale. Aucune réponse. Enfin, clairement, ils ont juste pas répondu quoi à la question.
C'est pas étonnant. Est-ce que moi, je me souviens, la seule commission que j'avais suivie, c'était lorsque avaient été entendus lorsque Yann Barthès avait été entendu, puis Canal Plus.
Pour
Par rapport en fait c'était pour le renouvellement en fait des chaînes TNT.
D'accord.
Donc en fait, comme ce sont des attributions faites par le CSA, et le CSA qui n'est plus un organisme indépendant depuis un sacré bout de temps, et donc en fait chaque chaîne a été entendue.
Okay.
Et en fait, pour le truc, c'est que par exemple, Yann Barthès avait été entendu parce que globalement, sur sa chaîne, c'est quotidien et des rediffs. Et oui. Des séries, quoi, globalement. Mm-hmm. Pareil pour C8, en fait, tu invites que Anouna parce qu'il n'y a que.
Voilà.
Et d'ailleurs, Anouna, il ne s'était pas pointé. C'était je sais plus qui de Canal+ qui était venu à la place. Bref. En fait, tu voyais que à part 2-3 réponses, globalement, il se passe rien. Enfin, les gens sont entraînés à ne rien répondre.
Quand ça parlait de souveraineté numérique aussi, tu vois, sur les investissements étrangers, pour Anne de Voissoux, c'est une bonne chose que le pognon, d'ailleurs, vienne récompenser finalement le bon travail des studios français. En gros, sa réaction au rachat de Quantic Dream entièrement par NetEase à l'époque, c'est merci NetEase. Voilà. C'est cette façon d'aborder, si tu veux, les réponses au truc. Question sur, il y a eu des questions sur la protection des enfants, parce que visiblement, il y a des gens qui considèrent encore que les gamins sont mis en danger par des jeux plus 18, moins de 16, moins de 12, etc., que la législation PEGI.
Alors, c'est pas à moi qu'il faut parler, parce que dans 2-3 minutes, je vais parler de mise en danger d'enfants à cause des jeux vidéo.
Oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est des trucs sur lesquels ils ont répondu, le PEGI existe, après, derrière, c'est la responsabilité des parents. Voilà.
Très bien.
Qu'est-ce qu'on a eu aussi rapidement?
Non, mais c'est les problèmes d'addiction. C'est pas les armes qui tuent. Hein.
Mais voilà. C'était le sujet.
C'est pas les armes qui tuent.
C'était très clairement le sujet. Très bien. Mais effectivement, c'est la seule fois où Anne de Voissoux a été un petit peu rappelée à l'ordre. C'était pour l'inciter finalement à répondre réellement sur la question des conditions de travail et des environnements toxiques. Et ce qu'ils peuvent faire effectivement également pour la parité, sur la féminisation des studios, enfin comment faire en sorte en fait que tu reféminises un petit peu plus le domaine de la création par rapport du côté des joueurs et des joueuses qui est beaucoup plus égal. Je crois qu'ils ont utilisé le dernier chiffre du CEL.
Le CEL. Pour le coup, c'est le CEL qui fait toujours. Ils disent maintenant c'est quasiment 50-50.
C'est ça, c'est 47-53. Enfin voilà. Donc clairement, ils voulaient poser la question effectivement de faire un petit peu de.
Les réseaux sociaux disent que c'est pas vrai.
Alors. Les réseaux sociaux. Bref. Donc c'était intéressant. Dans son ensemble, pour voir en fait surtout à quel point ils avaient juste pas l'intention de répondre, et que comme le constate et comme le regrette le STJV, s'ils avaient fait venir des travailleurs, des gens qui réellement auraient eu des idées là-dessus sur l'amélioration des conditions de travail, par exemple, ou sur des questions effectivement de financement, de comment est-ce que système de redistribution et de il y a peut-être des gens qui avaient des idées. Parce que le CEL et le SNJV, ils n'en avaient pas. Enfin, ils n'avaient pas l'intention, en fait, de faire partie d'un mécanisme de redistribution dans lequel, eux, ils ne seraient pas que du côté où ils reçoivent.
Je vais dire, attention, je ne te laisserai pas dire que le CEL et le SNJV, ils n'ont pas des idées. Ils en ont plein.
Alors, ils ne les ont absolument pas montrées.
C'était pas l'endroit. C'était pas l'endroit, mais ils en ont plein. T'inquiète pas, Vin. Ils en ont beaucoup.
Mais voilà, mais effectivement, le compte rendu du STJV. Je voulais aller plus loin.
Idées dont tu vas parler dans une commission parlementaire où on dit pourquoi ça va pas.
C'est possible.
Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Effectivement. Mais oui, voilà. Donc ils ont pas répondu effectivement sur industrie qui ramasse quand même quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros par an d'argent public, et à quoi ils se servent de ça, à licencier.
Ça marche. Eh ben merci pour le temps.
J'aurais eu plus de temps. Il y avait beaucoup de choses à dire sur les
richement
le décalage entre la réalité et ce que disent les gens.
Je vois pas de quoi tu parles. Moi j'ai trouvé ça super bien. Enfin les quelques minutes que j'ai vues, j'ai fait. Ça a l'air c'est parfait.
Mention à François Ruffin qui avait évoqué l'idée de taxer les microtransactions pour financer le système de redistribution. Ce qui t'emmène directement vers ton sujet.
Eh ben ce serait pas une mauvaise idée en soi. Dire du bien de Ruffin, dangereux.
Exactement. C'est pour ça que je voulais te laisser le faire.
Dangereux.
Prends le risque toi-même.
T'imagines, il y a des gens qui vont croire des choses, quoi. Donc,
non. Donc, moi, c'était en France. Toi, c'est?
Moi, c'est l'Europe.
Très bien. Monsieur est plus ambitieux.
Enfin, oui.
Mais forcément, depuis hier.
L'Europe.
Tu te sens pousser des ailes et tu crois que le PSG va enfin gagner. Non, ça n'a rien à voir? Alors, c'est pas le sujet?
Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est rêvons plus grand. tout ce que j'ai envie de dire. Moi, je vais parler de la Commission européenne qui va examiner le cas des microtransactions. Mmh. Pour rappeler, en fait, c'est quoi les microtransactions ? Peut-être que si un jour, dans vos mains, vous avez eu un truc qui s'appelle Fortnite, ou un truc qui s'appelle Clash of Clans, ou un téléphone, et vous avez joué
voilà.
dessus...
Voilà, c'est un bon début.
Si vous avez eu un téléphone dans vos mains et que vous dites « Ah tiens, ça, c'est sympa ce jeu, est-ce que je pourrais y jouer ?» Vous connaissez donc les free-to-play.
Voilà.
Le principe des free-to-play.
C'est qu'on te laisse jouer un petit peu, et puis après...
Voilà, c'est ton dealer de cocaïne préféré. Le modèle économique free-to-play, il repose donc essentiellement sur les microtransactions. L'autre moyen de gagner de l'argent étant la publicité.
Il n'y a pas démarré l'enregistrement.
Ben c'est pas grave, on le récupérera autrement. Voyons. Et tu m'arrêtes pour ça ?
Oui.
Quel scandale. Donc, il y a deux moyens pour les jeux gratuits qu'on appelle free to play de récupérer des sous. Le premier étant les microtransactions et le deuxième étant la publicité. Le marché de la publicité... c'est sur internet et de manière générale le marché de la publicité, même ailleurs, c'est largement cassé la gueule en termes de ce que ça peut rapporter. Donc c'est essentiellement les microtransactions qui rapportent des sous à ces jeux-là, et vu le nombre de jeux gratuits avec microtransactions qui existent, sachant que maintenant on est allé plus loin vu qu'il y a des jeux payants avec microtransactions. Coucou Electronic Arts.
Bonjour FIFA.
Voilà. Le truc, c'est que ces microtransactions qui permettent de dégager des profits sans vendre directement le jeu. Même si maintenant, on peut aussi vendre le jeu tant qu'à faire. Tellement c'est ancré dans les habitudes des joueurs que ce n'est plus un problème.
Tu connais NBA 2K ? Non, pas.
Eh oui.
70 balles le jeu.
Hein. Ah bah, avec les pubs intégrées.
Et tu repayes pour des microtransactions. Et
c'est beau, hein. C'est un enjeu économique fort hein, pour les éditeurs, hein, même pour les plus gros. En 2023, chez Electronic Arts, les achats internes représentaient un chiffre d'affaires de 1,71 milliard de dollars.
Ok, c'est quoi la proportion ?
Et
par rapport à leurs revenus ?
Et quand je dis en 2023, excusez-moi, c'est uniquement sur le dernier trimestre.
Ah oui.
Excusez-moi.
C'était un petit trimestre.
Non, mais voilà. Okay. Et voilà.
Et par rapport à ce qui rend.
Et en fait, par exemple, clairement, Electronic Arts dépend totalement des microtransactions parce que en 2023, sur ce trimestre-là, c'était 73% des revenus de l'entreprise.
Ok.
Répartis principalement sur trois licences. Une qui s'appelle EA Sports FC, une qui s'appelle Apex Legends, et une troisième qui s'appelle les Sims, ce valeureux Sims.
Ok.
Voilà. Cette logique, en fait, elle peut être faite de manière vertueuse, dans le sens où tu peux très bien faire un jeu où tu n'as pas besoin, de microtransactions pour avancer et pour prendre du plaisir à y jouer et avancer et avoir l'impression d'évoluer de façon totalement logique. Et en fait, les microtransactions vont te permettre soit d'avoir quelque chose de complètement
optionnel,
soit pour avancer, mais si t'en as envie, soit encore mieux pour des aspects totalement esthétiques.
L'esthétisme, effectivement, c'est le plus vertueux, je trouve.
Voilà.
À partir du moment où tu permets aux gens de payer pour aller plus vite, ou pour ne pas te taper des phases de gameplay, bah c'est que tu as juste fabriqué tes phases de gameplay de façon à ce qu'elles soient suffisamment pénibles pour que les gens aient envie de payer. C'est moins vertueux, je trouve.
Je suis d'accord, mais on va dire tout dépend comment c'est fait. Le truc, c'est que c'est quand même une logique, les microtransactions, c'est une logique qui est sujet à de nombreux abus, comme la création de raretés artificielles avec des objets exclusifs dans des durées limitées. Bonjour, est-ce que vous connaissez les gachas ? Voilà. Si vous ne connaissez pas les gachas, le principe, c'est de la loterie, vraiment, où on te dit pendant 3 jours, il y a tel objet ultra rare qui va venir, il faut que tu mettes de l'argent, sinon tu ne l'auras pas.
Si tu mets de l'argent, tu l'auras peut-être pas. Mais ouais. Si tu mets pas d'argent, tu l'auras pas.
C'est sûr. Donc,
La peur de manquer, voilà. Le FOMO.
Le FOMO, voilà. On y est. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les mécaniques addictives. Donc, les roulettes de type loot box et des systèmes de progression liés à l'achat. Mmh. Aussi, en disant, sachant que la forme ultime là-dessus, hein, de mécanique addictive pour les systèmes de progression liés à l'achat, c'est quand tu payes un joueur top mondial pour dire qu'il joue à ta place. Attends.
Ah,
ça c'est.
Ah, pas Path of Exile 2 ?
Ouais, voilà. Non, hein? Mais c'est. Après, c'est un système, c'est un système très avancé.
Oui, oui. Réservé à l'élite du gouvernement américain.
Mais réservé à l'élite. Point.
Oui, c'est ça. Le mec qui a des bagnoles qui crament. C'est ça.
C'est toute seule.
Absolument. Pas du tout provoqué par des gens.
Enfin, la confusion volontaire sur les monnaies internes et leur équivalence réelle. Effectivement, le fait d'avoir des monnaies virtuelles qui permettent d'acheter des choses dans le jeu, mais d'avoir des monnaies qui permettent d'acheter d'autres monnaies, qui permettent d'acheter encore d'autres monnaies, avec ouais. des systèmes bien confus qui te permettent de pas comprendre qu'en fait, tu es en train de mettre de l'argent dedans.
Qui dilue complètement la sensation de dépenser réellement du vrai argent.
Exactement. Et en fait, ces mécaniques, elles exploitent toute la psychologie comportementale. Et en fait, elles sont particulièrement efficaces et même dangereuses chez les plus jeunes. La Commission européenne a voulu renforcer son approche face aux microtransactions dans les jeux vidéo, particulièrement lorsqu'il s'agit de pratiques ciblant les enfants. Et ce durcissement de ton trouve son origine dans le cas précis d'un jeu en ligne qui s'appelle Star Stable Online. Un MMO, donc un jeu massivement multijoueur, d'équitation.
Et bien tu vois, c'est ça qui est presque étonnant, c'est que ça serve de point de départ, alors que des jeux avec des microtransactions, on en connaît plein, mais celui-là, non.
Et le truc a probablement été choisi parce qu'il est spécifiquement destiné aux enfants. Ce jeu, en fait, il est devenu le point de départ d'une enquête menée par la Commission européenne suite à une plainte déposée par l'Association suédoise des consommateurs contre Star Stable Entertainment, qui est une société suédoise basée à Stockholm et qui est filiale du groupe Nordisk Game.
Ok.
Je ne sais pas si toi, moi ça ne me dit rien.
Du
je sais
tout,
pas,
mais je comprends en fait le fait que ce soit local. Oui. Ils attaquent une boîte chez eux, et pas une entreprise asiatique, une entreprise comme il y en a beaucoup qui font effectivement du free-to-play, oui. qui sont quand même, c'est un petit peu de là que ça vient à l'origine, quoi, d'Asie, mais
typiquement, voilà. Typiquement, attaquer Roblox, pourquoi pas, mais ils sont loin, hein, donc.
Ouais, voilà, au niveau juridique, au niveau de plein de trucs, enfin, c'est bon, ça peut avoir du sens. Oui, parce non, que malgré tout, ils ont. Si tu veux travailler, si tu veux gagner de l'argent sur un territoire, t'es bien obligé d'être intégré à ce territoire.
Pareil, là, je vais attaquer Fortnite, c'est 49% en Californie et 51% ou l'inverse, non, en Chine.
C'est 40% Tencent. Je crois qu'ils ont
40%, pardon.
40% d'Epic.
Ouais, mais donc, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont dire.
Non, mais il y a sûrement des moyens. Mais là, au moins, ils ont le gros avantage d'être local.
C'est ça.
Et voilà, les lois, ils les connaissent, etc. Ils sont obligés de s'y plier parce qu'ils sont physiquement là.
L'enquête de la Commission européenne a mis en lumière l'ensemble des pratiques commerciales jugées prédatrices envers les enfants, notamment, en tout cas dans ce jeu-là, notamment. J'ai une petite liste.
Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est une liste qu'on retrouverait dans n'importe quel jeu. Mais je t'écoute.
Le ciblage direct des enfants dans la publicité. Ce qui n'est pas forcément le cas.
Non, ça, là non.
Tu vois ? Le ciblage direct des enfants dans la publicité. Et je pense que si c'est ce jeu-là, c'est parce que je pense que c'est un jeu qui cochait tout le bingo.
Bah, je veux dire, de base, tu mets des chevals, bon.
Ouais.
Hein ? C'est ce que j'ai dit. Quoi ?
Donc les enfants.
Voilà, exactement.
Les enfants.
Exactement.
Ciblage indirect via les parents incités à acheter des objets ou des monnaies virtuelles pour leurs enfants. Ça, c'est tout le monde, par contre.
Voilà. Voilà. Oui, oui.
Pression commerciale par des promotions à durée limitée rédigées de façon à capter l'attention des plus jeunes.
Tout le monde.
La rédaction dépend, mais oui. Le reste, oui. Manque de clarté sur le fonctionnement de la monnaie virtuelle, son coût réel et son usage dans le jeu. Bon, là,
check.
Voilà. Et mon préféré, encadrement laxiste des influenceurs qui ne respectaient pas les obligations de transparence en cas de collaboration commerciale.
Oh, c'est mignon ça.
Ça, c'est mon petit préféré.
C'est mignon parce que ça aussi, je pense que c'est relativement local comme règle.
Ouais.
Il me semble qu'en France, t'as pas le choix.
Oui, c'est ça.
Tu dois déclarer, mais est-ce que c'est une règle européenne ?
C'est pas une règle européenne.
Voilà, ouais.
Non. Ces éléments, en fait, montrent une absence de transparence et une forte incitation à l'achat tant que les enfants sans que les enfants ne comprennent les implications économiques de leur choix. Suite à cette affaire, la Commission européenne, avec l'appui de diverses associations de protection des consommateurs, a décidé d'élaborer une charte fondatrice qui va servir de socle pour une future régulation des monnaies virtuelles et des microtransactions dans les jeux vidéo du territoire européen. Mmh. Sept grands principes, là par contre je vais vraiment redérouler les principes de la charte. J'ai essayé d'un peu raccourcir parce que le texte européen est...
Bah c'est un texte européen.
Voilà. Non, parce que toi t'as passé deux heures
à écouter.
Moi j'ai épluché les résultats de l'enquête et la charte qui va avec.
Toi tu sais écouter, toi tu sais lire, moi je sais écouter, chacun son truc.
Je me suis bien amusé, voyez-vous.
Je sais pas si j'aurais changé ma place en vrai.
Alors, d'abord, en 1, l'indication claire et transparente des prix. Les jeux doivent indiquer explicitement le coût réel en monnaie des objets virtuels et des services.
Donc, ouais, mais du coup, aussi, le service, c'est l'objet en question.
Voilà.
Les lootbox, etc.
C'est-à-dire.
Et ça devient plus compliqué.
Tu viens au point numéro 2. D'accord, interdiction de dissimuler le coût réel derrière des systèmes de monnaie virtuelle flous ou compliqués.
Okay.
C'est-à-dire que quand tu achètes un truc, c'est pas 44 joyaux,
ouais.
C'est tant d'euros.
Et quand tu payes pour un truc, tu sais ce que tu pourras avoir ? C'est ça l'idée ?
Alors ça, c'est... Ah non, ça c'est...
Parce que dans le
Xbox... Là, on parle que des prix.
D'accord, mais du coup,
si
tu parles du prix de ce que tu achètes, et que si tu mets de l'argent alors que tu sais pas ce que tu vas acheter... Ça marche pas.
Alors ça, le truc, c'est... Alors, une fois de plus, le casino n'est pas interdit en Europe. Hein, donc, le casino n'est pas interdit en Europe.
Oui, mais malgré tout, tu vois ce que je veux dire.
Je pars de la charte, je te dis, voilà.
Ouais, bien sûr,
on te dit pas, c'est interdit de payer un truc pour pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est pas ça.
D'accord. Comment ça s'appelle les trucs où t'achètes des colis pas livrés, là?
C'est ça. Une vente aux enchères. Interdiction de pratiques de forçage à l'achat via des mécaniques détournées et trompeurs. Information claire avant l'achat. Les consommateurs doivent comprendre ce qu'ils achètent, à quel prix et dans quelles conditions. En gros, quand tu es dans une lootbox, tu dois savoir que c'est une lootbox.
D'accord. Et éventuellement, savoir ce que tu pourrais y avoir dedans, limiter peut-être les possibilités. Je pense à ça parce que c'est le cas dans, par exemple, les lootbox de Counter-Strike.
Mmh. Je sais pas trop. En fait, pour l'instant, il n'y a pas ça dedans. C'est plutôt... D'accord. Plutôt que tu aies une vraie conscience du risque.
Ok. Ouais, ouais. Que tu aies validé le fait que.
Ok.
Je mets de l'argent.
Potentiellement, t'auras rien.
Ou quelque chose qui vaut pas grand chose.
Tu vois ?
Quelque chose qui vaut pas grand chose.
Voilà.
T'auras forcément quelque chose.
Oui.
Pas forcément quelque chose qui.
Pour
vaut,
moi, c'est un peu comme les bundles surprises que tu peux avoir sur certaines.
J'avais pensé à quelqu'un en particulier.
Sur certaines boutiques.
Qui balance des clés. Ouais.
Voilà. Bad rat.
Le trauma.
Où j'en étais ? Oui, le droit de retrait respecté. Il est possible d'annuler un achat dans un délai raisonnable.
Mmh.
Exactement comme le fait que sur Steam et que pour tous les jeux des maths, en fait, tu peux avant 14 jours.
Les règles de Steam, c'est 14 jours ou 2 heures
ouais.
de jeu. Mmh. 14 jours d'achat ou 2 heures de jeu.
Mais c'était lié à une règle européenne.
Tout à fait.
Et donc je pense
qu'ils ont extrapolé.
Voilà. Mais... C'était lié à une règle européenne. Contrat compréhensible, les termes de vente doivent être clairs, accessibles, même pour un public jeune.
Mmh.
Ça va être très très compliqué.
Parce que mettre les CGV,
je sais pas si t'as déjà lu des CGV,
mais mettre
des CGV en langage clair et en facile à lire et à comprendre.
Oui, je te rappelle pas mon boulot, mais ouais. J'ai déjà lu des CGV.
C'est un enfer.
En fait, ce que je pensais plus au-delà de ça, c'est accessible aux enfants. C'est-à-dire que tu valides le fait que ce soit des enfants qui puissent prendre la décision d'achat.
Je sais pas, mais.
Tu vois ce que je veux dire?
Possiblement. Possiblement. C'est-à-dire que il n'est pas interdit de donner à des enfants un portefeuille.
Ça pourrait être une question.
Voilà. Et enfin, respect des vulnérabilités via le game design. Les mécaniques de jeu ne doivent pas exploiter les faiblesses psychologiques des jeunes. Des jeunes.
Ouh, amuse-toi bien.
Donc en gros, tu n'as pas le droit de cibler les jeunes quand tu fais ce genre de saloperie. C'est plutôt ça en fait. Moi c'est ce que mais moi ça c'est le point qui me paraît le plus compliqué à contrôler.
Bah déjà plus flou en soi, à partir de quand où ça commence jeune et où ça s'arrête.
C'est est-ce que tu es en âge de gagner de l'argent, je pense hein. Ça va être là.
Ça va, oui.
Dans le droit européen au moins c'est réglé là-dessus hein.
Aux États-Unis ça devient de plus en plus flou mais
dans le droit,
c'est pas le sujet.
Dans le droit européen, c'est réglé à partir de quel âge tu as le droit de gagner de l'argent. Donc je pense que ça va être quelque chose de ce goût-là.
Okay.
Ça, c'est une charte, mais c'est pas une loi pour l'instant.
D'accord.
C'est important de souligner que ces principes ne sont pas inscrits dans la loi. Il s'agit pour l'heure de recommandations fortes, mais qui pourraient servir de base pour des actions judiciaires futures. En cas de non-respect de ces principes, la Commission européenne et le réseau d'associations de consommateurs peuvent s'auto-saisir à condition qu'une plainte soit déposée, ce qui arrivera par les associations de consommateurs en question.
Oui.
L'idée, en fait, c'est de rendre plus fluide et plus réactif l'appareil de régulation face aux abus dans l'univers numérique et vidéoludique. Ça s'approche, en fait, d'une logique de soft law, qui serait pas, en fait, une loi à proprement dire qu'on ait besoin de faire voter par le Parlement européen. Mais en fait, c'est ce que je disais, c'est quand il n'y a pas de loi, il faut au moins une jurisprudence. Et ben,
c'est créer une situation reconnu comme étant la norme et c'est la règle à suivre.
C'est ça. C'est pour ça que le cas de Star Stable Online, il est stratégique. Même s'il s'agit d'un jeu relativement inconnu du grand public, il représente l'exemple parfait d'un modèle économique problématique, souvent répliqué à plus grande échelle par les jeux les plus populaires. En mettant en lumière un cas concret, la Commission européenne envoie un signal fort, selon moi, à toute l'industrie.
Oui, parce que comme tu le dis, si ça passe, tout le monde va pouvoir, toutes les associations de consommateurs vont pouvoir dire ça, maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ils vont pouvoir se plaindre, vont pouvoir saisir, vont pouvoir...
Voilà. Moi, mon espoir, c'est que le cadre évolue et qu'il sera plus toléré d'ignorer ce type de dérive, notamment tout ce qui concerne les publics vulnérables comme les enfants. Mmh. Et là, je me dirige vers une très grande entreprise européenne extrêmement riche qui aimerait bien aller vers le free-to-play et gagner beaucoup d'argent. Bonjour Lego.
Ah, ils sont déjà un petit peu quelques doigts de pied dans le jeu vidéo.
Dans le free-to-play, pas encore, un petit peu, mais pas tant que ça. Mais là, ils veulent plonger à fond avec le Lego Fortnite, etc.
Oui. Ils ont mis combien? Un milliard hein,
ah ouais, non, mais ils ont mis beaucoup
avec,
de sous.
Avec Fortnite pour créer leur métavers, là.
Voilà.
On en a entendu parler à l'époque, c'était presque il y a deux ans.
Mais
un mois et demi.
Clairement, ils seraient très très intéressés par rapport à un coin où tous les enfants viennent pour faire de Lego et tout ça.
Imagine le marché.
Donc,
Il y a du préventif là-dedans, hein, un peu.
Bon, on est d'accord, Lego c'est danois, mais bon, ça vient de Suède, c'est pas. Voilà.
Bref. Oui. Mais après, c'est vrai que ça mettrait, on va dire, une situation de plus, une situation, enfin des règles entre guillemets déjà qui viennent s'ajouter à ce qui peut déjà exister au niveau de la protection des consommateurs, qui est déjà un peu plus importante en Europe qu'ailleurs. Et c'est pas jusqu'à aller du niveau de la Belgique, qui eux interdisent absolument tout ce qui est lootbox, tout ce qui est microtransactions.
C'est pas ce qui est prévu pour l'instant par la charte.
Ils sont pas partis aussi de façon aussi brutale, aussi radicale.
Je pense surtout que au niveau de la Commission, ils sont aussi conscients des conséquences économiques, comme je te le dis, énormément d'entre eux aussi, et des gens comme Electronic Arts. C'est pas européen, certes, mais dépendent à 73% de microtransactions. Beaucoup d'acteurs européens. Par exemple, Rovio, c'est... Ah non, ils ont été rachetés, pardon. Ils ont été rachetés par Tencent ou NetEase. Un des deux.
Okay.
Mais en tout cas, bref, il y a encore beaucoup de jeux et d'entreprises
qui dépendent de ça et qui fonctionnent comme ça économiquement.
Et le fait d'être aussi radical aurait du mal à passer même sur une charte, on va dire.
Je comprends l'idée. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de valider le fait que c'est des entreprises qui tiennent sur un modèle économique dangereux et prédateur?
Moi, ça ne me dérange pas s'ils sont contraints à ne pas faire de la merde.
La question, c'est comment est-ce que tu peux effectivement t'assurer de ça, vérifier ça, sanctionner s'il déborde. C'est des questions que cette charte ne répond pas.
Pour moi, si, mais bon.
Le sens où il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de barème de sanction, il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire ?
Il n'y a pas de barème de sanction vu que ce n'est pas une loi.
Voilà, une loi le mettrait, alors que là, il va falloir que
La sanction ne pourra être que juridique.
C'est ça.
Parce que, donc, justement, que la commission va se saisir, et s'il y a justement faute, c'est la commission qui mettra en place... système de jurisprudence.
Aucun problème. Mais
c'est un système de jurisprudence.
Ça n'aura d'impact, et un vrai impact, que si la sanction est suffisamment dissuasive.
Ce qu'on ne peut pas savoir pour l'instant. Et en plus, le truc, c'est que si tu demandes de... pour le coup, ça ira beaucoup plus vite que d'essayer de faire voter une loi européenne, sachant que faut qu'il y ait plus que les deux tiers qui soient d'accord pour que la loi soit votée. Et ça, tu peux attendre 10 ans, littéralement.
Du coup, c'est vachement à suivre. Quand est-ce que cette charte sera activée, sera utilisée, sera évoquée, invoquée même pour des cas plus précis encore.
Juste avant de terminer, pour moi, il y a un truc qui sera vraiment intéressant, c'est effectivement il y a comment cette charte sera vérifiée, mais pour moi, au bout d'un moment, il faudra une harmonisation des règles pour tous les membres européens. Il faudra des obligations légales pour les éditeurs. Évidemment, tu parlais des sanctions en cas de manquement, mais moi je parle aussi, comment tu contrôles les plateformes de distribution qui ne sont pas, aucune des plateformes de distribution actuelles n'est européenne. Oui. On parle de l'App Store, on parle de Steam, on parle de Google Play, c'est que des systèmes qui sont étrangers.
Oui, donc les obliger en fait à avoir une vérification à l'entrée d'où vient l'utilisateur, de quel pays il vient, et par l'IP, etc.
Parce qu'en gros, le système de Steam, justement, sur les 14 jours, c'est en mode, on veut pas d'emmerde avec l'Europe, donc on y va d'avance. Google, ils peuvent dire, faut refoutre, on fait bien ce qu'on veut. Donc, tu vois.
C'est un premier pas. C'est une première question de façon vraiment qui est posée de façon globale. C'est un outil qui est disponible pour tout le monde maintenant. Mmh.
Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a un premier pas. Même si le truc est vieux, je veux dire, la problématique est ancienne, mais c'est bien que on se soit. Moi, je trouve que c'est la bonne technique de dire, dis donc, toi là-bas, que personne connaît. Dis donc, monsieur Bossman.
T'as la référence.
Au moins, tu sais de quoi je parle. Mais voilà.
Ouais. Ok. Écoute, merci. On se revoit pas la semaine prochaine. Enfin, si. On peut se revoir.
Si, on se revoit la semaine prochaine, mais pas Radio Canu, mais juste à côté.
Chez les Tartes.
Dans un bar qui s'appelle Chez les Tartes, parce que ça sera le temps du Prestart, donc qui est notre soirée mensuelle de quiz, où on va passer du rock, on va vous poser plein de questions stupides, et vous aurez le droit au sens de la justice inénarrable de Romain et de moi-même, pour que vous puissiez vous amuser pendant toute la soirée.
Et ce sera donc jeudi prochain à partir de 8h, 8h30, voilà, à peu près.
C'est ça. Et donc, le Radio Canu, vous nous retrouverez dans 2 semaines. On sera là avec peut-être des invités.
Apparemment. C'est prévu. Merci encore.
Merci à toi.
Passez une bonne soirée.
Ciao.
Salut.